DIH en action, 7 facteurs permettant d'influencer les comportements dans l'objectif de renforcer le respect du droit international humanitaire. Par Madalena Vasconcelos Rosa et Juliane Garcia-Ravel. Si l'on en croit la une des médias, les violations du droit international humanitaire semblent omniprésentes dans le monde. Bien qu'elles représentent toujours une cruelle réalité pour les femmes, les hommes et les enfants touchés par un conflit armé, il est toutefois erroné, voire dangereux, d'en conclure que le DIH n'est jamais respecté, et par conséquent, inutile. Au-delà des gros titres, on peut observer quotidiennement l'impact positif du DIH. Lorsqu'un blessé peut passer un checkpoint, lorsqu'au cœur des combats, un enfant bénéficie d'une aide humanitaire et de denrées alimentaires, lorsque les conditions de détention des prisonniers sont améliorées ou qu'on les autorise à contacter leur famille. Quels sont les éléments susceptibles d'influencer le comportement des parties au conflit et qui vont faire qu'elles vont choisir de respecter les règles de droit ? Dans ce billet, Juliane Garcia-Ravel et Madalena Vasconcelos Ronza, conseillères en droit et politique humanitaire au CICR, ont identifié 7 sources d'influence sur le comportement permettant le respect du DIH en se fondant sur l'analyse des différents cas de la plateforme DIH en action. Vous êtes en train de conduire en pleine nuit et arrivez à une intersection. Vous avez une vue dégagée sur toutes les directions et constatez qu'il n'y a aucune voiture à l'horizon. Pourtant, lorsque le feu passe au rouge, vous marquez l'arrêt. Pourquoi choisissez-vous, comme la grande majorité d'entre nous, de respecter cette règle du code de la route ? D'une part, parce que la règle est claire et que chaque personne qui a obtenu son permis de conduire accepte de s'y conformer. Vous savez qu'en cas de non-respect, vous risquez une contravention. Il est donc dans votre intérêt de la respecter. Vous savez que le fondement de cette règle est légitime, pour votre propre sécurité et celle des autres. D'autre part, vous avez suivi cette règle tant de fois qu'elle fait partie de votre quotidien et relève presque d'un automatisme. Les chercheurs classent ces comportements en 2 catégories. La première est la coercition. Éviter des sanctions pénales, l'humiliation, une atteinte à la réputation ou l'exclusion des relations de coopération. La seconde est la légitimité du droit. L'individu intègre le droit comme une autorité morale légitime et ou il pense qu'elle est en accord avec sa notion du bien et du mal sur le plan normatif ou moral. En s'appuyant sur les dernières études en sciences cognitives, en psychologie sociale et en neurosciences sociales, certains auteurs affirment même que les gens ont une prédisposition positive à respecter le droit et qu'il existe chez l'individu une tendance cognitive et émotionnelle naturelle à prendre en compte le bien-être des autres. Le principe est le même en droit international et en particulier en droit international humanitaire, l'une de ses sous-branches. Le respect des obligations internationales est défini comme un comportement ou une situation qui est conforme aux obligations internationales d'un sujet de droit international. Tout ordre juridique établi est confronté à la question de savoir comment faire respecter le droit. Mais cette question est encore plus particulièrement prégnante en droit international, qui relève d'un ordre juridique décentralisé, ne disposant donc pas des instruments veillant à sa bonne application, que l'on retrouve traditionnellement dans les dispositifs de maintien de l'ordre à échelle nationale, un système qui s'appuie sur des tribunaux et une force de police. Pour garantir que le droit international, et en particulier le DIH, soit respecté, il est souvent nécessaire d'avoir recours à d'autres stratégies qui vont au-delà des fondements juridiques essentiels. Au-delà des fondements juridiques essentiels, influencer les comportements. Dans le cadre de son mandat de protection et d'assistance aux victimes de la guerre et de la violence, le CICR a longtemps cherché à influencer les comportements dans l'objectif de renforcer le respect du DIH. Une attention particulière a ainsi été portée à mieux comprendre les origines du comportement dans la guerre et les sources d'influence qui contiennent la violence chez le combattant dans un conflit, en explorant les sciences du comportement, telles que la théorie du nudge. Le projet DIH en action, qui s'inscrit dans la nouvelle approche du CICR Changing the Narrative on IHL, a été lancé en 2015 en suivant le même principe. En s'appuyant sur des études portant sur le comportement et la psychologie, ce projet considère que le fait de mettre systématiquement l'accent sur des situations dans lesquelles le droit international a été violé ne constitue pas le moyen le plus efficace pour induire un changement des mentalités. Il présuppose, au contraire, que le fait de mettre en lumière des comportements conformes au DIH a plus de chances de produire un changement. Cette hypothèse a été confirmée par des recherches récentes en neurosciences, ainsi que par des rapports, tels que le rapport de la Banque mondiale, Pensée, Société et Comportement, et des articles académiques soulignant l'importance de la modélisation de rôles positifs, ou Positive Role Modeling. La plateforme DIH en action offre une collection d'exemples concrets de situations dans lesquelles le DIH a été respecté par les belligérants partout dans le monde. Elle vise ainsi à remettre en cause la perception erronée selon laquelle le DIH est systématiquement violé et n'est jamais respecté. La plateforme apporte non seulement la preuve que le DIH est souvent respecté, bien plus que ce que l'on veut le penser au regard de l'actualité, mais démontre également que la plupart du temps, les belligérants sont convaincus qu'il est dans leur intérêt de le respecter. Ces 5 dernières années, la plateforme a été un outil efficace sur lequel le CICR s'est appuyé pour établir un dialogue humanitaire sur l'importance du DIH et de son pouvoir protecteur pour les populations touchées par un conflit armé. Après avoir passé en revue tous les facteurs pouvant inciter au respect du DIH que l'on peut extraire de plus de 60 cas pratiques collectés, 7 sources d'influence sur le comportement récurrent apparaissent. 1. Les intérêts militaires. La plateforme offre des exemples concrets de situations dans lesquelles des parties à un conflit ont respecté le DIH par intérêt d'ordre militaire. De nombreuses déclarations ou des actions concrètes montrent que les belligérants considèrent que le respect du DIH est plus souvent un avantage qu'une contrainte, en particulier sur le plan militaire. Dans la conduite des hostilités en Afghanistan, le respect du DIH s'est avéré être un avantage sur le plan stratégique. Dans la nouvelle directive tactique sur l'emploi de la force, publiée par la Force internationale d'assistance à la sécurité de l'OTAN, la FIAS, et les forces américaines en Afghanistan, le général David Petraeus s'est ainsi exprimé en ces termes. Le fait de concentrer nos efforts sur la protection de la population a d'importantes conséquences. Nous avons augmenté la sécurité dans certaines zones stratégiques et avons réduit le nombre de victimes civiles causées par les forces de la coalition. Nous devons continuer. Il faut redoubler d'efforts pour réduire les pertes civiles à un minimum absolu. Chaque mort d'un civil afghan affaiblit notre cause. Si nous faisons un usage excessif de la force ou si nous agissons à l'encontre de nos principes pour lutter contre la rébellion, les victoires tactiques peuvent se mouvoir en défaite stratégique. De la même manière, en Somalie, la mission de l'Union africaine, la MISOM, a reconnu que les incidents dans lesquels la MISOM serait impliquée et qui causeraient des pertes civiles auraient des conséquences stratégiques sur la mission de la MISOM en Somalie. 2. La légitimité ou la reconnaissance. Les acteurs armés cherchent souvent à asseoir leur légitimité sur le plan national ou international et souhaitent être reconnus comme des représentants de plein droit. Respecter le droit des conflits armés contribue dès lors à cet objectif. Pendant l'opération Serval, la France, qui intervenait sur le sol malien en tant que puissance étrangère, devait s'assurer que son intervention soit perçue comme légitime. Dans une étude en accès libre, les autorités françaises ont déclaré que la liberté d'action du politique et du militaire passe par la légitimité de l'action, et que cette légitimité, c'est le fait que l'opération apparaisse comme juste, guidée par des idéaux universels, et respectueuse de nos engagements juridiques internationaux. À cet égard, la France a fait part de sa volonté d'aller au-delà de ses obligations au titre du DIH, en adoptant une politique de tolérance zéro dans sa conduite des hostilités au Mali. Il convient d'être convaincu que pour atteindre cet objectif, nous devons souvent nous imposer davantage de contraintes que ce qui nous est imposé par les textes, en particulier pour protéger les populations civiles et les biens sensibles dans les territoires théâtre de nos interventions. Pendant l'opération mobile du Canada en Libye, 2 pilotes canadiens ont interrompu un raid aérien autorisé après avoir estimé que les dommages collatéraux risquaient d'être trop élevés. Dans cette situation, le respect manifeste des principes de proportionnalité et de précaution dans l'attaque a conduit le Parlement canadien à qualifier l'opération mobile d'opération parfaitement légitime puisqu'elle est faite dans un cadre multilatéral et qu'elle vise à protéger les populations civiles. Dans cette catégorie, on trouve aussi des exemples de groupes armés non étatiques pour lesquels le respect du DIH est notamment motivé par l'espoir d'obtenir une reconnaissance ou parce qu'ils revendiquent une partie du territoire. En 2009, le Front Moro de Libération Islamique, un groupe armé non étatique aux Philippines, a signé un plan d'action avec l'ONU pour mettre fin au recrutement de mineurs et libérer et réintégrer les enfants soldats dans la société. Le Front Moro de Libération Islamique a par la suite déclaré publiquement vouloir remercier toutes les personnes qui ont pris part à l'identification, l'enregistrement et le soutien au désengagement de ces enfants et qui ont contribué à faire en sorte que l'action du MILF en ce sens soit reconnue. Comme la presse l'a par la suite laissé entendre, ces mesures qui respectent le DIH reflètent la volonté du MILF de faire pleinement partie de la société philippine conventionnelle. 3. L'opinion publique nationale et internationale. Du besoin de légitimité et de reconnaissance découle aussi la recherche de soutien de la part de l'opinion publique nationale et internationale, qui peut être définie, selon March et Olsen, comme une motivation fondée sur la réputation. Cette motivation est largement exprimée dans les cas présentés sur la plateforme. Elle tend à démontrer que les États et les groupes armés non étatiques se soucient de l'opinion publique, de la communauté internationale et de la population nationale lorsqu'il s'agit d'évaluer leur conduite, leur image et leurs choix politiques. Ceci inclut les pressions politiques exercées par des tiers, tels que les États tiers, les organisations, associations ou médias locaux, qui créent l'engouement ou la désapprobation de l'opinion. La réaction aux pressions politiques peut parfois s'expliquer par un besoin de consolider une certaine image ou de répondre aux critiques qui sont formulées, comme en Somalie, où la décision de protéger les civils a été prise dans le but explicite de gagner le soutien de la population, qui, comme l'a déclaré Lamy Somme, est le principe directeur pour la planification et la conduite de toutes les opérations. Au-delà des déclarations ou des annonces publiques, les actions publiques concrètes, telles que le choix d'organiser une cérémonie officielle, montrent que, lorsqu'ils agissent conformément au DIH, les belligérants ont le souci de le faire savoir publiquement. C'est notamment le cas en République centrafricaine, où des enfants soldats ont été libérés par des milices anti-Balaka lors d'une cérémonie tenue vendredi dans la ville de Batangafo. Ou encore au Soudan, où le ministre de la Protection sociale a signé un plan d'action au nom du gouvernement soudanais lors d'une cérémonie de haut niveau organisée au ministère des Affaires étrangères en présence de plusieurs ministres, pour souligner ainsi la détermination du gouvernement soudanais à mettre un terme au recrutement et à l'utilisation d'enfants. 4. Le rôle des tiers neutres. Le travail mené par les organisations nationales et internationales semble également avoir une influence positive sur le comportement des parties au conflit. Ces organisations ont le savoir-faire, l'expertise et le capital politique suffisant, entre autres, pour jouer le rôle de tiers neutres et apporter leur aide aussi bien aux États qu'aux groupes armés non étatiques, afin qu'ils se conforment à leurs obligations au regard du droit des conflits armés. Les organisations humanitaires, telles que le CICR, jouent un rôle important, notamment en participant aux négociations ou en tant que médiateur auprès des autorités locales pour s'assurer que les droits des détenus sont bien respectés, comme en Libye. Elles peuvent aussi agir en tant qu'acteurs neutres à qui sont confiés les prisonniers qui doivent être libérés, tel qu'on a pu l'observer en Côte d'Ivoire. En Géorgie et en Croatie, les sociétés nationales de la Croix-Rouge et le CICR, en tant qu'intermédiaires neutres en charge des services de recherche des personnes disparues, ont été directement impliqués à toutes les étapes du processus consistant à collecter et à consolider les informations essentielles pour l'identification des restes humains à des fins médico-légales. De la même manière, on peut citer le travail entrepris par l'UNICEF, qui a offert ses conseils aux parties pour déterminer la meilleure manière de réintégrer les enfants soldats dans la société ou dans leur famille, comme au Soudan du Sud. On peut aussi souligner la démarche de l'UNESCO, qui a apporté son expertise au gouvernement jordanien pour enregistrer des objets d'art saisis et s'assurer qu'ils soient bien rapatriés vers l'Irak. 5. Les processus de paix. Les conflits non résolus ont des conséquences sociales, politiques et économiques considérables. Et on constate à maintes reprises que la paix reste la finalité recherchée par la plupart des belligérants. La plateforme offre des exemples de situations dans lesquelles les belligérants mettent tout en œuvre pour éviter de rendre tout retour à la paix impossible et essaient de respecter les règles de la guerre en gardant cet objectif final à l'esprit. C'est particulièrement le cas lorsque des enfants soldats sont impliqués et que, comme en Colombie, des groupes armés non étatiques tentent d'organiser leur retour dans la société tandis que l'État essaie de les réhabiliter de manière à éviter des comportements criminels à l'âge adulte. Par ailleurs, dans certaines situations, on constate que, lorsque des pourparlers de réconciliation sont entamés sur la table des négociations, le respect du DIH sert de référence commune pour orienter la discussion, puisqu'il s'avère être bien souvent dans l'intérêt des nations et de leur prospérité à long terme de respecter le droit. Cet élément semble particulièrement pertinent lorsque les parties au conflit prennent des mesures pour répondre aux problèmes des personnes disparues et des dépouilles mortelles, comme en Argentine, où un diplomate britannique avait ainsi déclaré. Il était clair pour nous qu'il s'agissait d'un problème humanitaire pour lequel la priorité première était de respecter la volonté des familles, avant d'ajouter que les anciens combattants continuent à nous enseigner la véritable signification des termes dignité et réconciliation. Enfin, après la fin des hostilités, le respect des obligations prévues par le DIH permet de consolider la paix avec ses ennemis passés, comme après la guerre Iran-Irak, lorsque les deux parties ont échangé les dépouilles de 241 soldats tués durant la guerre, qui a opposé les deux pays pendant 8 ans. Il s'agissait du dernier signe en date d'une coopération renforcée entre les deux nations voisines, qui s'était livré à un combat sans merci par le passé. 6. L'influence des normes culturelles et éthiques locales et des impératifs religieux. En s'appuyant sur les conclusions du rapport « Contenir la violence dans la guerre », on constate que les traditions et normes culturelles locales ainsi que les valeurs religieuses jouent un rôle essentiel pour encourager les acteurs armés à respecter le DIH. Le fait que certaines règles fassent partie intégrante des identités locales ou que les autorités religieuses exercent une influence pour que certaines mesures soient prises conformément au DIH au sein de leur communauté semble avoir une influence directe sur le comportement des belligérants qui respectent alors leurs obligations au titre du DIH, comme aux Philippines, où un archevêque local a conduit une mission humanitaire indépendante au cours de laquelle il a pu négocier la libération de détenus. De la même manière, en Syrie, les autorités religieuses locales ont participé à une formation en rappelant les sources islamiques du DIH et l'obligation des musulmans de les respecter. En Somalie aussi, les sessions de formation ont été spécifiquement élaborées pour le contexte somalien afin d'y inclure des références aux règles traditionnelles et religieuses du pays. 7. La réciprocité positive. La réciprocité positive, dont font état plusieurs cas pratiques de la plateforme, pourrait également influencer la décision de respecter le droit des conflits armés. En d'autres termes, si une partie se conforme à ses obligations en vertu du DIH, le plus souvent, l'ennemi fera de même. Le cas d'étude sur l'Érythrée et l'Éthiopie en est l'illustration concrète. Suite à l'accord de paix signé par les deux parties, les délégués du CICR ont suivi la libération de prisonniers de guerre des deux côtés du conflit. Un autre exemple est celui du Yémen, où, suite à la libération d'un groupe de détenus du camp ennemi, un représentant houthi avait affirmé « Cette initiative témoigne de notre bonne volonté de mettre en œuvre l'accord suédois et nous appelons l'autre partie à prendre des mesures similaires. » Quelques mois plus tard, l'autre partie au conflit a également procédé à la libération de certains prisonniers. Conclusion. Si l'obligation de respecter et de faire respecter le DIH en toutes circonstances doit rester la raison première pour laquelle les belligérants se conforment aux dispositions de cette branche du droit, ces exemples montrent que les sources d'influence sur le comportement des parties au conflit ne semblent pas se limiter à la coercition et à la légitimité du droit, puisque de nombreux autres facteurs autres que juridiques contribuent également à générer un plus grand respect du droit. Ces cas montrent que dans la plupart des cas, les belligérants, qu'il s'agisse d'États ou de groupes armés, ont l'intention de respecter le droit des conflits armés. Ce constat vient bousculer l'idée reçue selon laquelle le DIH est constamment violé et serait donc inutile. En raison de la complexité du comportement humain, il est difficile de chercher à mieux comprendre les raisons sous-jacentes qui expliquent le comportement des acteurs armés, que ce soit par intérêt militaire, politique, juridique, ou encore que ce comportement s'explique par certaines normes éthiques ou par l'assimilation de certaines valeurs. Bien qu'il soit récurrent, ces éléments peuvent toujours être interrogés et remis en cause, et varient d'une situation à l'autre. Toutefois, ils peuvent être un atout inestimable lorsque l'objectif visé est d'offrir une plus grande protection et une assistance aux personnes touchées par des conflits armés et la violence. Ainsi, les praticiens de l'humanitaire peuvent délibérément s'appuyer sur ces observations lorsqu'ils dialoguent avec les parties au conflit afin d'influencer leur comportement dans un sens positif et générer ainsi un plus grand respect du DIH.